Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. Je me rappelle très bien de ce matin, j'étais adolescent, où avec un copain, on avait mis nos réveils super tôt, et puis on avait marché pendant une heure pour arriver à une sorte de Graal incroyable. Un endroit qui faisait des petits déjeuners américains à volonté. All you can eat breakfast. Je suis resté dans ce buffet de longues heures pour profiter de cette offre folle et manger des tonnes de brouillés et de pancakes décongelés que maintenant je trouverais pas terribles. Tu payes une fois, puis tu manges tout ce que tu veux. Évidemment, maintenant, je suis un adulte responsable, je prétends que tout ça, ça me dégoûte, et je dirais à mes enfants avec aplomb que c'est surtout pas ce qu'il faut faire, qu'il vaut mieux manger moins, mais mieux, avec discernement, de manière responsable. Mais en fait, au fond de moi-même, il y a quand même une petite partie qui considère que l'idée du buffet à volonté, c'est quand même un peu une représentation du bonheur sur Terre. Consommer massivement, qu'il s'agisse de goûter au chocolat, de téléphone, de vêtements, c'est devenu une part importante de nos vies, un peu de qui nous sommes. Et on n'a pas forcément tous les mêmes fantasmes de consommation, mais on a quand même un point commun. On achète de plus en plus de trucs. Or, dans tous les scénarios de transition climatique, il y a un élément très clair qui apparaît. Il faut consommer moins d'énergie. Sinon, ça passe pas. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, qu'est-ce que ça veut dire de consommer moins d'énergie? En fait, ça veut dire qu'il faut consommer moins tout court. Sauf que c'est facile de dire que la consommation, c'est moche et c'est pas gentil. Mais en fait, on est tous embarqués dans des contradictions. Dans les enquêtes d'opinion, on voit bien que beaucoup de gens aspirent à consommer moins, à consommer mieux. Mais en fait, quand on voit nos pratiques d'achat, on fait exactement l'inverse. Pourquoi est-ce que le fait de consommer pose problème dans notre trajectoire climatique? Est-ce que c'est si grave de collectionner, comme disait Boris Vian, les tourniquettes à faire la vinaigrette, les ratatines ordures et les coupes fritures? Quelle part des changements doivent se faire au niveau individuel et au niveau collectif? Et comment on fait pour changer nos habitudes de consommation, pour consommer moins et mieux? Voilà, c'est de cela dont nous allons parler dans cet épisode de Chaleur Humaine. Benoît Elbrun est professeur de marketing à l'ESCP Europe. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur la consommation et il a notamment dirigé en 2023 un livre qui s'appelle « Peut-on consommer autrement ?» aux éditions Sciences Humaines, dont le sous-titre « Les clés pour changer nos habitudes » guidera notre conversation d'aujourd'hui. Bonjour Benoît Elbrun.
Bonjour Nabil.
Alors Benoît Elbrun, peut-être qu'on peut commencer par le début. C'est quoi le problème avec la consommation?
Alors d'abord, je pense qu'il faut peut-être se mettre d'accord sur ce qu'est exactement la consommation. Parce qu'en fait, pour beaucoup, consommer signifie acheter. Or en fait, la consommation renvoie à des pratiques, donc l'échange, l'utilisation, la façon dont je vais me débarrasser des biens, ou le fait de faire des choses, par exemple bricoler, c'est une activité de consommation. Donc moi, je défends une idée large de la consommation, dont l'achat, en fait, n'est qu'une séquence parmi d'autres. Et donc, la consommation, en fait, ça fait partie des relations sociales. Donc, quand on dit la consommation, c'est pas bien et c'est moche, moi, je ne suis pas d'accord avec cette assertion, parce que je pense que des pratiques de consommation sont définitoires de l'être humain. Après, la question, c'est de savoir comment on en est arrivé à une situation dans laquelle la consommation est une finalité de l'existence. Et là, évidemment, on atteint les rives de ce qu'on appelle la surconsommation.
Mais ça, peut-être qu'on peut expliquer ça, parce que vous expliquez bien la consommation, mais il y a ce qu'on appelle la surconsommation, l'hyperconsommation. Est-ce qu'en fait, c'est parce que on a changé nos pratiques de consommation au fur et à mesure? Est-ce que c'est parce qu'on achète beaucoup plus de choses?
Je vais donner un chiffre. Au Moyen-Âge, un individu rencontrait dans toute son existence 200 objets, à peu près. Aujourd'hui, on en croise 20 000 par jour. On a trouvé dans des maisons américaines 300 000 objets. Aujourd'hui, 60% des garages aux États-Unis ne peuvent plus accueillir de voitures parce qu'il y a des cartons pleins de ce que les Américains appellent le stuff. C'est-à-dire la babiole qu'on a achetée, on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être que ça va servir un jour, on ne sait pas, donc je garde. Et tout ça, ça s'empile. Donc, tous les marchés ont cru. Alors, ce qui n'a pas que des conséquences négatives, parce que ça veut dire aussi que, par exemple, tout ce système marketing a permis, par exemple, à la grande distribution, de nourrir à peu près correctement l'ensemble de la population. Donc, il faut aussi voir les vertus du système, pas toujours taper sur le système marchand. Il faut bien comprendre que la consommation est essentiellement dictée par la production. Et donc, c'est l'évolution du système de production à partir du 19e siècle qui permet d'expliquer le fait qu'aujourd'hui, on arrive à une situation de surconsommation. La révolution industrielle va permettre de fabriquer des choses en plus grande quantité, de les vendre moins cher, Donc, on est dans la problématique de l'accès aux biens, et donc à ce qu'on va appeler peut-être plus tard la démocratisation de la consommation. Mais du coup, ça veut dire que on va inventer au 19e une technologie qui s'appelle le marketing, qui va avoir pour fonction de trouver des débouchés pour l'industrie américaine.
En fait, tout le monde n'est pas concerné par la consommation de la même façon, et les impacts de cette consommation ne sont pas forcément les mêmes. On en avait parlé dans ce podcast avec l'économiste Lucas Chancel, qui expliquait bien que les 10% les plus fortunés, ils émettent 5 fois plus de gaz à effet de serre que les 50% les plus modestes. Et une des raisons pour lesquelles les plus aisés ont plus d'impact, c'est pas parce qu'ils sont pas gentils, c'est parce qu'en fait, ils consomment plus de choses, ils achètent plus de biens, ils payent pour plus de services, ils voyagent plus loin, etc.
Il y a une clé de lecture intéressante, c'est la répartition du budget des ménages. Si on regarde les choses depuis la fin du 19e ou même les années 60, il y a un certain nombre de postes qui ont pris une importance considérable, donc notamment les loisirs. Aujourd'hui, c'est à peu près 15%, c'était peut-être 3% il y a 70 ans. Le logement, et donc effectivement, le logement, ça devient une contrainte pour beaucoup. Transport, logement, culture, ça, c'est les postes qui ont vraiment augmenté. Et puis, les postes qui ont vraiment diminué énormément, c'est l'alimentation, qui représente en moyenne 15%. Mais alors là, il faut se méfier de la moyenne, parce que pour une famille très modeste, ça peut représenter plutôt 20%, et pour une famille aisée, plutôt 10%. Et puis, il y a un poste qui est assez intéressant, parce que on en parle beaucoup, et ça a fait l'objet de revendications, c'est le poste de l'énergie. La part de l'énergie dans le budget des ménages est constante à 9%. Donc on a eu un petit pic au milieu des années 80, on est monté à 13%. Là, il y a une petite remontée, mais en fait, on n'est qu'à 9%. Donc là, on voit bien qu'il y a une différence entre la réalité de l'importance de la dépense énergétique dans le budget des ménages et la perception. Exactement la même chose que pour le pouvoir d'achat. Les Français sont persuadés que le pouvoir d'achat dégringole, alors qu'en fait, il ne cesse d'augmenter.
Enfin, c'est quand même un peu dur ce que vous dites, parce que pour beaucoup de gens, c'est pas simplement une perception. Avec l'inflation, beaucoup se disent « mais moi, en fait, avant, je pouvais acheter ça. Aujourd'hui, je peux plus acheter ce même produit, ce même nombre de biens, acheter les mêmes jouets pour mes enfants, acheter des produits alimentaires, etc. » C'est pas simplement la grande distribution ou les marques qui orientent cette perception, non?
Je dirais qu'il y a deux choses par rapport à ça. Il y a d'abord le problème de la restriction de l'accès aux biens pour certaines familles défavorisées. Et ça, c'est pour moi un problème politique majeur qu'il va falloir régler, c'est-à-dire la question de l'accès à des biens qu'on estime essentiels. L'Observatoire des inégalités fait régulièrement des enquêtes sur les postes qui donnent lieu à restrictions, alors partir en vacances, manger de la viande deux fois par semaine, etc. Et on voit qu'effectivement, il y a une augmentation. Ou alors, par exemple, le fait de devoir reporter le paiement des factures ou des assurances ou d'énergie, etc. Donc ça, c'est un vrai sujet hein, qui touche une partie significative de la population. Et puis après, au risque de choquer certains, je voudrais rappeler des faits. C'est que les consommateurs, enfin, on va appeler ces gens-là des consommateurs, même si je n'aime pas le terme, sont absolument incapables d'observer des effets d'inflation ou de déflation. C'est-à-dire que quand on fait des enquêtes en sortie de magasin, en demandant aux gens « est-ce que vous pouvez nous dire quel est le prix de ce que vous venez d'acheter ?», très peu de personnes sont capables de citer un prix avec une marge d'erreur de 5%. Donc ça veut dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les gens ne connaissent pas le prix des produits qu'ils achètent, sauf quand ce sont des achats récurrents. C'est-à-dire que vous savez combien coûte une canette de soda au distributeur ou un café, parce que ça, c'est tous les jours, ou un paquet de cigarettes. Et effectivement, la connaissance du prix, elle augmente avec l'augmentation du prix. C'est-à-dire que quand vous achetez un bien cher, donc c'est beaucoup plus impliquant, là, vous faites attention au prix, donc il y a une mémorisation du prix. Mais pour demander aux gens combien coûte ce qu'ils ont acheté dans leur caddie, ils en sont incapables. Et en fait, il faut rappeler que on a vécu pendant plusieurs années une époque de déflation, c'est-à-dire que le prix des produits de grande marque baissait de peut-être 0,5 ou 1% par an, mais ça, les gens ne s'en rendaient pas compte. Et effectivement, là, on a eu tout un discours social sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat, mais c'est pour moi d'abord une question de perception et c'est aussi une question de symbolique. Et je vais prendre un exemple, c'est le gasoil. Alors que le prix du paquet de cigarettes a augmenté de façon très conséquente pour des raisons politiques, hein, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on augmente significativement le prix d'un paquet de cigarettes, il y a une décroissance de la consommation. Et donc ça, ça a été une des décisions d'Emmanuel Macron qui l'a poussé jusqu'au bout. Les gens, pour ça, ne descendent pas dans la rue. Alors que pour le gasoil, là, ils sont prêts à se battre. Pourquoi ? Parce que c'est le transport et que derrière le gasoil, c'est aussi l'inégalité dans le rapport au déplacement. Mais bon, il y a des études qui ont montré que si on compare le prix d'un litre d'essence aujourd'hui et dans les années 70, et si je prends tout un tas de variables en considération sur le fait que les voitures consomment moins, etc., etc., le prix de l'essence a baissé. Alors que les gens sont persuadés que le prix de l'essence a augmenté.
Mais en fait, quand je vous écoute, je me pose forcément la question, est-ce que le sujet c'est consommer mieux, remplacer des consommations polluantes par d'autres qui le sont moins, ou bien est-ce que c'est consommer moins de tout, tout court ? Vous, comment vous réfléchissez à cette question ?
Je pense qu'il faut changer en fait de perspective. Vous avez rappelé tout à l'heure avec votre excellent exemple du buffet à volonté, que j'ai connu moi aussi quand j'étais étudiant aux États-Unis, le fait que nous vivons dans une société structurée autour d'une idée de l'abondance matérielle. C'est-à-dire que nous pensons que pour vivre pleinement, il faut une abondance de biens. Et donc, effectivement, il y a une croissance exponentielle de certains marchés parce que c'est l'idée du toujours plus. On peut repenser cette question d'abondance en allant vers ce que certains, notamment une économiste américaine qui s'appelle Juliette Shore, appelle la plénitude. Parce que ce qui compte, finalement, c'est pas l'accumulation des biens. Il faut aussi sortir du paradigme qui dit que je consomme, dis ce que je suis.
Enfin, ce que vous dites, c'est quand même assez fondamental dans le principe même de la consommation. C'est bien la raison pour laquelle on veut s'acheter des baskets dernier cri ou un téléphone qui vient de sortir. C'est parce que ce qu'on achète, ce qu'on possède, ça dit aussi un peu de qui on est, non ?
Mais on oublie qu'il y a une autre activité essentielle de l'être humain qui est le faire, et que pour viser la plénitude, ça veut dire que d'abord, il faut penser notre rapport au travail et au loisir. Donc, il faut moins travailler, il faut avoir plus de temps de loisir. Et Juliette Shore a très bien montré qu'une société qui surconsomme, c'est une société qui surtravaille. Donc, changement du rapport au travail, changement du rapport au loisir, et surtout, développer des modes d'autoproduction. L'une des voies, je pense, de réflexion, c'est d'aider les gens à faire des choses eux-mêmes, parce que ça donne une fierté, ça coûte moins cher, et ça nécessite moins d'énergie, parce que moins de transport. Et donc, ça, c'est, je pense, l'une des voies de la consommation responsable, hein, c'est-à-dire, c'est sortir évidemment d'un discours moralisateur qui n'a aucun impact, en disant, finalement, il faut que tu retrouves un sentiment de plénitude dans ton existence qui ne peut s'abstraire de la consommation. Pour ça, il faut faire des choses dont tu sois satisfait. Et on sait très bien que quand on fabrique quelque chose, quand on bricole, eh bien, ça donne le même type de satisfaction que quand on pratique un instrument de musique, enfin, de façon sérieuse, parce que il y a l'idée d'un apprentissage, d'un effort, mais qui donne lieu à une expérience extrêmement plaisante, hein, ce qu'on appelait le flow en psychologie. Donc, c'est des expériences optimales. Et moi, je suis persuadé que, au lieu de taper en permanence sur la consommation, eh bien, il faut, je dirais, positiver la consommation en essayant de voir ce qu'elle peut apporter aux gens en termes de satisfaction psychologique.
Je comprends dans ce que vous dites que vous en appelez en fait à une consommation qui est plus ralentie, qui est plus réfléchie aussi. Et ça, bon, bah, je crois qu'on pourrait être d'accord sur le principe. Mais après, pour que ça change d'une manière massive, il y a un moyen qui est plus radical, qui est la question des prix. Dans ce que vous décrivez, qu'est-ce qui deviennent les prix dans ce monde où la consommation est plus raisonnable, plus rationnelle ?
Le prix, c'est fondamental. Il va falloir accepter que le prix de certains biens ou certains services augmente à terme. Parce que si on veut réduire notre impact, il faut revaloriser les biens marchands, il faut revaloriser le travail. Et pour ça, il va falloir accepter que le prix des choses augmente. C'est la seule solution pour consommer moins à terme.
Alors, on peut revenir sur un point qu'on a déjà évoqué auparavant, c'est quand vous dites que, quelque part, on paye pas le vrai prix des choses et qu'il faut qu'un certain nombre de choses soient plus chères. Pourquoi vous dites ça ?
Il va falloir accepter de consommer moins et de consommer mieux. Et consommer moins et consommer mieux, ça veut dire que ce qui est important, c'est la qualité des choses. Donc d'abord, c'est leur utilité et c'est la qualité des choses. Et des choses de qualité, bah, ça coûte plus cher à fabriquer. Donc il va falloir faire accepter en fait aux populations que pour consommer mieux et consommer moins, eh bien, il va falloir utiliser des choses qui coûtent plus cher. J'ai bien dit utiliser, pas acheter. Parce que ça veut dire aussi qu'on peut penser l'économie l'autonomie de la fonctionnalité. Et l'idée, par exemple, de recourir à un abonnement, de posséder des choses ensemble, de partager des choses. Donc se repose la question des biens publics par rapport aux biens privés. Et je pense que c'est cette répartition qui va nous permettre de faire une transition harmonieuse.
Mais ce qui est difficile, c'est quand on s'est habitué à payer les choses de moins en moins cher, finalement, de payer son kilo de tomate à 1 euro ou de payer des vêtements pas chers du tout, faire le chemin inverse, c'est très difficile pour un certain nombre de gens, et surtout celles et ceux qui ont le moins de moyens, les gens qui ont le moins de revenus. Bon, si on leur dit maintenant, en fait, il faut payer votre alimentation plus cher, vos vêtements plus chers, les produits manufacturés plus chers, l'énergie plus chère, bon, bah, ça va pas rendre tout ça très populaire.
L'idée, c'est qu'il faut d'abord se préoccuper des gens qui sont fragiles. Et effectivement, quand je dis qu'il faut rehausser la valeur des choses, je prends en compte l'idée qu'il faut protéger des personnes qui sont dans des difficultés financières et pourvoir en fait à des biens qu'on estime essentiels dans une vie sociale et démocratique. Et c'est pas simplement avoir un toit et un logement, c'est l'éducation, la culture, le fait de se déplacer. Donc ça, ce n'est pas négociable. Et donc, ça veut dire notamment mettre en œuvre une politique du logement, une politique alimentaire, une politique des loisirs, parce que tout ça, effectivement, c'est lié. Mais une fois qu'on a dit ces choses, qu'on a identifié des personnes fragiles, et il y a des dispositifs qui permettent de les aider, il faut faire accepter aux gens qui sont capables de vivre de leurs revenus que d'acheter du low cost, en fait, ça détruit tout. Ça détruit la planète, mais ça détruit surtout la valeur du travail. Et donc, si on veut une société équitable, il faut repenser la valeur du travail, la répartition de la valeur économique dans tout ce qu'on appelle la valeur étendue du produit. Ça veut dire que il faut repenser la notion de prix juste, qui rémunère en fait correctement l'ensemble des acteurs de la filière. Et ça, c'est absolument fondamental. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se priver. Ça veut dire qu'il faut qu'on essaye d'aller ensemble vers des biens de qualité.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal quand même dans ce que vous dites? Vous dites à la fois, bon, il ne faut pas tout faire porter sur les individus, ce que je comprends tout à fait, mais en même temps, il faut que les individus se remettent à faire des choses soi-même, à la main, etc. Comment on concilie ça?
La question fondamentale, c'est comment collectivement nous allons fabriquer un imaginaire désirable de la sobriété. Parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut aller vers la sobriété. Mais sauf que ce n'est pas avec des injonctions auprès des individus qu'on va y arriver. C'est en utilisant des outils de propagande. Il faut sortir justement d'un discours négatif, comme par exemple le dévendeur. Donc on est encore dans une posture négative pour aller vers quelque chose de positif. Et pour cela, il va falloir utiliser la publicité. Donc il va falloir...
Mais est-ce qu'il y a des exemples de ça qui vous semblent des pistes intéressantes de gens qui ont essayé de développer des discours sur justement des modes de consommation?
C'est-à-dire que en fait, les acteurs qui s'emparent de cette question, ce sont les entreprises. Et d'ailleurs, on attend énormément des entreprises, notamment en termes d'innovation, parce que c'est vrai que le progrès technologique logique va permettre aussi des formes de déconsommation. Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la consommation, c'est un enjeu politique et que cet enjeu politique, enfin cet objet politique, il doit faire appel à des outils qui sont les outils du monde marchand. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les armes de l'ennemi pour changer nos perceptions.
Sauf qu'aucune entreprise aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, c'est une logique de production de masse et donc de consommation de masse.
Oui.
Aucune entreprise aujourd'hui va se dire, mon modèle, c'est qu'on consomme moins du produit ou du service que je vends.
Moi, je vais vous donner deux exemples pour moi de rupture. C'est d'abord la garantie Darty, c'est-à-dire le fait que je vais garantir tous les appareils électroménagers chez vous et je vais venir les réparer. Et même si ça coûte plus cher à réparer que d'en acheter un nouveau, je vais le faire et ça va être gratuit pour vous, si vous payez votre abonnement. Et l'autre système très intéressant, c'est le système de location mis en place par Decathlon en Belgique, mais qui va sans doute se propager, qui consiste à dire aux individus, il y a des paliers d'abonnement de 500 à 1000 euros, et en échange de ça, donc tu payes ça annuellement, tu vas pouvoir utiliser l'équivalent en produits magasin Decathlon. Il y a un champ à explorer pour les entreprises et pour l'État, c'est évidemment ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à l'usage. Il y a un redéploiement du savoir-faire des entreprises qui vont pas simplement vendre des produits ou des services, mais des bouquets, et ce qui veut dire qu'elles doivent, ces entreprises, acquérir de nouvelles compétences, parce que vendre un abonnement et vendre des produits, c'est pas du tout le même métier.
Mais moi, je comprends bien l'intérêt objectif qui est à dire on partage ce qu'il y a plutôt que chacun possède exactement le moindre des objets à soi, chez soi. Sauf qu'en fait, dans la perception de beaucoup de gens, c'est aussi une forme de liberté. Avoir ma propre machine à laver pour faire ma lessive quand je veux, mon propre vélo plutôt que de devoir prendre le vélo de la ville, etc. Moi, c'est quand même considéré comme un acquis d'une meilleure vie, de meilleures conditions de vie. Et donc, c'est pas facile. Comment on fait pour convaincre les gens que cette économie de la fonctionnalité, elle peut avoir des avantages par rapport au fait de tout posséder chez soi?
Le premier avantage de l'économie de la fonctionnalité, c'est que on va promouvoir des produits durables, donc qui sont solides, et du coup, ça va sortir du marché les produits cheap, qui sont cassables, et en fait, qui sont pas intéressants, enfin, qui sont intéressants pour personne. On va vers une montée en gamme, donc ça rejoint aussi la question des communs, c'est-à-dire quels sont les biens que l'on doit partager. Et puis après, il y a des produits que certes on a envie de posséder, typiquement le vélo, parce que être dépendant d'un système de location, c'est une énorme contrainte. Et donc quelqu'un qui fait quotidiennement du vélo a tout intérêt à avoir son vélo. Après, derrière ça, il y a des systèmes de représentation. Je me souviens, on avait fait une enquête il y a quelques années à l'ESCP sur la question de la location. Et on avait demandé aux gens quels sont les produits que vous ne louerez jamais. Et ce qui était arrivé en tête, c'était les draps. Et on disait aux gens, mais quand vous allez à l'hôtel, c'est bien ce que vous faites. Donc on voit bien qu'on est toujours embringué dans des systèmes de représentation. Et donc le rôle des entreprises, de la publicité ou de l'État, c'est justement d'orienter ces représentations et ces imaginaires dans un sens, alors qu'il doit être décidé collectivement. Et ça nous amène à un sujet que vous avez déjà brillamment traité, c'est que pour changer le système de consommation, il faut sans doute repenser une démocratie délibérative et pas simplement une démocratie participative. C'est-à-dire que je pense que la Convention citoyenne a montré l'intérêt des gens pour des modèles de concertation. Après, ce qu'il faut, c'est que le politique suive et mettre en œuvre ce qui a été décidé, ce qui n'a malheureusement pas été le cas.
Oui, enfin, si on réunit tous les gens pour discuter des pratiques de consommation, on n'est pas non plus certain que les gens ils disent « Ah oui, c'est super, on veut consommer moins, on veut faire plus de choses avec nos mains ». Peut-être qu'ils diront « Bah non, comme on l'a vu après le premier confinement, ils diront « Bah non, on veut pouvoir se ruer dans les magasins et acheter des vêtements pas chers parce qu'on n'a pas pu le faire pendant 2 mois ». Alors, c'est pas parce qu'on délibère de la consommation qu'on aboutit nécessairement à moins de consommation, non ?
Oui, mais je suis pas sûr que les individus verbalisent spontanément l'idée de la surconsommation. À partir du moment où on quitte un système moralisateur et qu'on est dans un débat, je pense qu'il y a tout intérêt à des modèles de concertation qui intègrent la dimension politique de la consommation, la dimension citoyenne, et qui soit pas simplement axé sur la question de la responsabilité, mais sur la question d'un mieux vivre. Parce que on voit bien aussi qu'il y a quand même une dégradation de la perception qu'ont les gens de leur vie personnelle et de leur vie professionnelle. C'est-à-dire que on voit bien qu'avant, les gens avaient tendance à dire « je suis heureux dans ma vie personnelle et moins dans ma vie professionnelle », etc. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dégradation de la perception de la vie personnelle. Donc, les gens ont bien compris qu'on a tous intérêt, non pas à consommer moins, mais à vivre différemment la consommation.
Je comprends bien cet enjeu qu'il y a sur les imaginaires, il y a un enjeu aussi sur la démocratie, vous en avez parlé, mais il y a quand même aussi un enjeu de réglementation, c'est-à-dire est-ce que le marché seul peut sortir des produits qui sont pas chers mais accessibles au plus grand nombre de nos magasins ? Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. On voit au contraire, on parlait tout à l'heure du textile, on voit au contraire qu'on a plus simplement de la fast fashion, mais de l'ultra fast fashion avec des produits vraiment pas du tout chers, de mauvaise qualité, mais qu'on peut se procurer en très grande quantité. Alors, est-ce que là, il peut y avoir aussi des règles qui pourraient exister et qui permettraient de favoriser certains usages par rapport à certains produits ?
La réglementation, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire que, bon, il y a 3 acteurs, on a parlé du consommateur, il y a un rôle évident des entreprises. Après, il faut attendre des États. Alors, pour le coup, une concertation, alors au moins au niveau européen, pour réglementer un certain nombre de secteurs, que ça soit, par exemple, la taxe sur les produits de la fast fashion, que ça soit l'entrée du plastique dans l'Union européenne, et que ça soit le respect des conditions de travail. Donc oui, la réglementation et la fiscalité sont des outils absolument fondamentaux. Mais encore une fois, on ne peut pas attendre tout des États à un moment de l'histoire où la notion d'État est en train de s'affaiblir, comme celle de démocratie d'ailleurs.
Alors, Alors, il y a un sujet sur lequel vous revenez aussi dans vos travaux, qui est la question des rituels de consommation. L'idée qu'en fait, en tant qu'individu, on consomme toujours un peu de la même manière, on achète souvent les mêmes choses, on a souvent les mêmes pratiques. Est-ce qu'on a des exemples de comment on fait pour changer un rituel de consommation? Qu'est-ce qui peut nous pousser, collectivement ou individuellement, à changer nos pratiques?
Alors, attention, il faut faire la différence entre le rituel et la routine. La routine, c'est le fait qu'on va engrammer des habitudes pour tout un tas de raisons, la pression temporelle, on refait la même chose qu'hier ou qu'avant-hier parce que en fait c'est commode. Donc on va aller chercher quand même très souvent la paresse et la facilité. Et donc l'être humain est par nature paresseux, donc il va avoir tendance à répéter les choses sans se poser des questions. Alors que le rituel, c'est une pratique culturelle, c'est donc un geste qu'on recommence mais qui a du sens. Alors que la routine n'a pas forcément de sens. Ce qu'essayent de faire les marques, notamment dans l'alimentaire, c'est de créer des rituels de consommation, de tremper son biscuit dans le lait, de prendre un café dès qu'on fait une pause au bureau, etc. Ça, ce sont des rituels, mais qui sont fabriqués notamment par les marques. Les gens qui ont travaillé sur les routines ont montré que pour casser une routine, il faut un choc durable, c'est-à-dire qui dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, parce que c'est la seule façon de casser des habitudes. Donc, par exemple, si vous voulez casser un mode de transport pour aller au travail, il faut qu'il y ait une contrainte suffisamment forte qui vous empêche de prendre votre voiture pour aller travailler. Si cette contrainte dure, on va dire, plusieurs mois, eh bien, dans ce cas-là, on observe un changement des comportements vers des transports en commun ou le vélo, et on s'aperçoit qu'une fois que la contrainte disparaît, les individus vont poursuivre ces pratiques dites vertueuses. C'est pour ça que, par exemple, quand des personnes arrivent dans une nouvelle municipalité, c'est à ce moment-là qu'on va les toucher pour leur vendre des cartes de transport en commun, parce qu'on sait que si on le fait 6 mois plus tard, c'est fini, c'est trop tard.
Alors c'est vrai, vous l'avez dit, il y a les changements dans la vie qui font que on est amené à changer nos pratiques de consommation, mais il y a aussi peut-être ce qui nous donne des indications dans notre consommation. Moi, je regarde les labels quand je vais au supermarché pour essayer de voir si ce que j'achète, c'est un produit qui est issu du commerce équitable, qui est issu de l'agriculture biologique. C'est pas toujours facile de se retrouver, mais est-ce que vous pensez que c'est intéressant de s'appuyer sur ce type d'éléments?
C'est à la base une technique marketing, mais qui a quand même des vertus. Le problème, c'est qu'en France, je pense qu'il y a au moins 400 labels alimentaires, donc les gens ne les connaissent pas. Ils connaissent peut-être un ou deux labels, notamment agriculture biologique, sans savoir vraiment ce que ça recouvre. Cette profusion des labels, elle est aussi due au fait que des marques s'auto-labellisent, donc il n'y a pas de consensus et de définition claire finalement de ce que dénote ce label. Et quant à l'agriculture biologique, le problème c'est que vous voyez dans les enquêtes que tout le monde aimerait manger des produits bio, mais personne n'achète de payer plus cher. Or, on sait que produire un produit bio, ça coûte plus cher. Donc c'est encore une fois, ça montre que pour manger mieux, il faut accepter de payer plus cher, mais il faut aussi peut-être réfléchir pour des gens évidemment qui n'habitent pas en ville à des schémas d'autoproduction, c'est-à-dire le potager, faire ses légumes, faire ses gâteaux soi-même, etc. Ce qui est une manière aussi d'être plus actif dans sa consommation, parce que je pense que le problème, c'est qu'on voit très souvent le consommateur comme une victime et comme un être passif. Or, il y a un agir consommatoire, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des choses, on peut même gagner de l'argent par la consommation, en produisant de l'électricité, en vendant des services, etc. Et donc, il faut arrêter de penser que la consommation n'est qu'un sacrifice. La consommation, ça dit l'ensemble des relations sociales qu'on a avec les autres qui sont médiées par des choses. Voilà, c'est ça la consommation. Donc il y a une dimension politique de la consommation et il faut réactiver la dimension citoyenne dans ces actes de consommation.
Alors il y a l'idée en France de développer un éco-score sur un certain nombre de produits pour pouvoir connaître l'empreinte carbone, l'impact sur la biodiversité de certains produits, notamment on pense aux vêtements. Est-ce que ça vous semble une bonne idée? Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous dites?
C'est absolument fondamental parce que ça veut dire qu'on va essayer de prendre en compte des contraintes qui étaient considérées comme des externalités négatives pour les entreprises et pour les consommateurs. Et finalement, on va essayer d'internaliser ces contraintes. Donc ça va évidemment dans le bon sens. Et je pense qu'en parallèle de ça, il faut qu'il y ait un score qui nous dise des choses sur le respect du droit du travail, qui serait le symétrique de l'éco-score.
Ça, je comprends bien qu'il faudrait peut-être avoir d'autres indicateurs et une plus grande transparence pour connaître la valeur réelle d'un produit. Mais est-ce que déjà le Nutri-Score, est-ce que ça oriente vraiment le choix des consommateurs vers une meilleure consommation ou est-ce que c'est juste un outil pour se donner bonne conscience?
Alors effectivement, moi ce qui me frappe beaucoup dans le Nutri-Score, c'est comment les industriels essayent de le détricoter, notamment ceux qui vendent de la junk food en expliquant qu'il y a des problèmes de méthodologie, etc. Donc, il y a toujours des problèmes de méthodologie pour mesurer, que ce soit l'inflation, le pouvoir d'achat, achats, le Nutri-Score. Donc, il faut une norme, un consensus pour se mettre d'accord sur le fait qu'on mesure quelque chose. Il y a des experts qui ont travaillé sur cet éco-score, qui ont pris en compte l'eau, l'énergie, le transport, etc. Et je pense que ça envoie un signal politique très clair qu'on va prendre en compte ces considérations dans une politique de la consommation.
Un dernier point dont on n'a pas parlé, c'est la question de la seconde main. Et moi, je reçois souvent des mails d'auditrices ou d'auditeurs qui m'interrogent là-dessus et qui s'interrogent là-dessus en disant, bah oui, d'un côté, évidemment que c'est mieux de ne pas acheter du neuf et d'utiliser des applications de type Vinted ou autre pour acheter de la seconde main. Mais d'un autre côté, ces mêmes applications, bah, en fait, elles réutilisent les mêmes techniques de marketing des marques pour nous pousser à la surconsommation et donc à les utiliser aussi beaucoup. Comment vous vous situez par rapport à ça?
Je pense qu'il faut se méfier de toutes les appellations, nouvelles formes de consommation, etc. Puisque la seconde main, ce n'est que la résurgence de pratiques ancestrales. Mais ça montre quelque chose d'intéressant qui est que les objets ont une vie, une seconde vie, une troisième vie. Donc il y a des gens, des collègues qui ont travaillé sur la biographie des objets. C'est extrêmement intéressant parce qu'un objet, ça raconte une histoire, ça raconte une trajectoire. Et effectivement, encore une fois, si on est sur un schéma de seconde main, ça veut dire qu'il faut des produits de qualité. Donc on en revient à l'idée d'avoir des produits qui sont plus chers, mais qui circulent mieux et qui sont mieux partagés. Cela étant dit, il est clair que certains acteurs, notamment du luxe, ont compris que la seconde main, c'est un levier pour accroître la taille des marchés. Donc, il y a un tour de passe-passe quand même du monde marchand qui est d'utiliser à des fins idéologiques la seconde main pour nous parler de sobriété, de vertu, alors qu'on est dans l'extension d'un business model. Il ne faut pas croire que parce que j'achète seconde main, je consomme mieux au responsable, si tant est que ça veut dire quelque chose. Il faut simplement, encore une fois, se reposer la question, quand j'achète quelque chose, de l'utilité de cette chose. Et quand je dis l'utilité, ce n'est pas simplement l'utilité fonctionnelle, c'est qu'est-ce que cette chose m'apporte sur le plan certes fonctionnel, mais aussi émotionnel. Est-ce que ça m'apporte de la joie, du plaisir, du partage, etc. C'est l'utilité sous toutes ses formes. On ne va pas rentrer dans un monde de privation, d'austérité. Personne n'a envie de ça. Donc, on n'ira pas. Et donc, il faut penser à un monde post-consommatoire qui soit joyeux.
Alors, vous travaillez sur ces questions depuis 30 ans. Qu'est-ce qui vous permet de garder l'espoir sur ces sujets?
Ce qui me donne de l'espoir, c'est que je pense qu'il faut toujours essayer de voir dans l'être humain ce qui est digne d'être admiré et pas ce qui est digne d'être méprisé. Je crois que l'être humain a une capacité de prendre en main son destin, parce que je crois à l'importance de l'autonomie. Et donc, c'est pour ça que je suis professeur, parce que je pense que l'éducation est un levier absolument fondamental et que c'est en réfléchissant ensemble, c'est en ayant des références intellectuelles et culturelles partagées que l'on peut repenser la société et le système de consommation.
Alors, je ne veux pas vous laisser repartir vers votre Normandie sans vous demander comment vous vivez la transition à un niveau plus individuel. Est-ce que, en réfléchissant à ces questions-là, d'abord, vous avez changé vos pratiques de consommation? Est-ce que vous consommez différemment maintenant qu'il y a 10 ans ou 20 ans?
Non, je ne dirais pas significativement parce que, j'ai toujours été... moi, je suis né sur un vélo, donc j'ai toujours privilégié le vélo par rapport à la voiture. J'essaie d'éviter tout type de livraison de produits à domicile. Et puis sinon, j'essaye, comme beaucoup, d'adopter un régime flexitarien, parce que, encore une fois, ça a aussi des bénéfices pour la santé, mais pas de rupture significative.
Est-ce que vous auriez un conseil de lecture ou un film qui vous a particulièrement marqué, qui vous a aidé à mieux comprendre les sujets qu'on a évoqués ensemble?
J'en citerai deux. Un livre, moi, qui m'a marqué, parce que je suis très attaché à l'auteur, c'est le roman de Pérec, Les Choses, donc 1963. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi il avait appelé ça Les Choses et pas Les Objets, parce que c'est justement sur la quête des objets de consommation. Et puis, pour rebondir par rapport à notre échange de tout à l'heure sur le fait de faire soi-même, un film qui, après réflexion, me marque plus que à l'époque où je l'ai vu, c'est-à-dire il y a 25 ans, ce qui est le Festin de Babette. C'est cette histoire d'une fille qui va hériter d'une somme colossale, donc dans un pays nordique, je crois que c'est le Danemark, et qui va consacrer en fait ce budget pour faire un repas d'exception et pour faire découvrir finalement la jouissance de la gastronomie à ses voisins et invités. Et je pense que c'est une célébration de l'autoproduction.
Merci Benoît Lebrun.
Merci à vous.
Je dois bien dire que pendant cette conversation avec Benoît Elbrun, j'avais dans la tête cette chanson de Boris Vian à laquelle je faisais référence dans l'introduction. Cette chanson dans laquelle il dit à quel point nos vies et nos amours sont désormais envahies de choses matérielles, comme des draps qui chauffent ou des pistolets à gaufres. La chanson s'appelle « La complainte du progrès ». Elle date de 1955, mais finalement, je me rends compte qu'elle a pas si mal vieilli. Et c'est d'ailleurs la première chose que je retiens de ce que m'a expliqué Benoît Elbrun. La raison pour laquelle on consomme toujours plus, c'est d'abord parce qu'on produit toujours plus. C'est pas simplement parce que je suis idiot que j'ai envie de m'acheter un nouveau mixeur alors que le précédent marche encore très bien. C'est d'abord parce qu'il faut écouler la production pour créer de la valeur pour les producteurs. On pourrait dire que c'est une manière assez déprimante de décrire nos vies de consommateurs. Mais je me dis aussi que ça doit nous pousser à la réflexion sur l'un des cœurs du problème climatique. Comment faire pour produire moins ? Parce que produire moins, c'est rarement dans l'intérêt des entreprises, c'est rarement dans l'intérêt des salariés, et pourtant, c'est quand même ce qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Voilà un bon sujet de contradiction, aussi individuel que collectif. La deuxième brique qui m'a marqué, c'est cette idée d'économie de la fonctionnalité. Louer des services plutôt que d'acheter des biens. Plus de partage et moins de propriété. Il y a quelque temps, j'ai vu qu'un quartier de Londres avait mis en place une bibliothèque de choses. Au lieu d'emprunter des livres, on peut y aller pour emprunter une shampouineuse à moquette ou un vidéoprojecteur. Finalement, si on avait des bibliothèques d'objets accessibles, pas chers et proches de nous, est-ce que c'est pas une piste pour nous aider à consommer autrement ? Le troisième élément qui me frappe, c'est cette idée qu'en faisant soi-même, on achète moins, mais aussi on crée un autre rapport à la consommation. Si on bricole, si on cuisine ou si on fait du patchwork comme ma maman, ben, on achète des produits, certes, mais on va les transformer soi-même. Et là, je pense comme Benoît Elbrun que ça fait partie des choses qui peuvent procurer de la joie, même du bonheur partagé avec d'autres, et en même temps changer notre manière de consommer. Il y a quand même un dernier point qui me fait réfléchir. Je comprends ce que veut dire Benoît Elbrun quand il dit que les choses doivent retrouver leur véritable prix. C'est vrai, c'est pas normal d'acheter des tomates à 1 euro le kilo, de payer quelques euros pour des vêtements ou des jouets qui ont traversé la planète au prix d'un impact environnemental désastreux. Mais comment on fait pour que cette hausse de prix ne soit pas profondément injuste ? Comment on fait pour que ça ne sanctionne pas celles et ceux qui ont le moins d'argent et qui, d'ailleurs, souvent, ont le bilan carbone le plus faible ? Avec en plus le risque que cette hausse des prix provoque un grand rejet dans une partie de la population. Sur ce point-là, comme sur tous les autres, je suis heureux d'entendre vos avis, vos critiques et vos propositions, comme toujours, à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. C'était Chaleur humaine, un podcast de la rédaction du Monde produit par Cécile Cazenave et réalisé par Amandine Robillard qui a composé cette musique originale que vous entendez en ce moment même. J'espère que cet épisode aura contribué à votre réflexion sur nos pratiques individuelles et collectives de consommation et je serai très heureux de recevoir vos avis, critiques, suggestions et aubergines à l'ail à l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. J'ai encore beaucoup de retard sur mes réponses aux messages, mais je lis tout et je finis toujours par répondre. Vous pouvez aussi d'ailleurs m'écrire par courrier ou m'envoyer des colis au journal Le Monde, 65 avenue Pierre Mendès France, 75 013 Paris. Chaleur humaine, c'est aussi une infolettre hebdomadaire. Chaque semaine, je réponds à vos questions sur la transition climatique. Vous pouvez vous inscrire gratuitement dans la description du podcast. C'est gratuit et c'est tous les mardis. D'ailleurs, vous pouvez encore trouver dans les bonnes librairies le livre « Chaleur humaine, 18 réponses à la menace climatique ». C'est édité par Le Seuil et Le Monde en même temps. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre application favorite. Vous pouvez le partager à vos amis qui adorent consommer ou bien qui ne veulent plus consommer ou bien ajouter des commentaires et des étoiles dans votre application. Merci pour votre écoute et bravo d'être resté jusque-là. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour glisser à celles et ceux qui écoutent encore une petite recette libanaise de soupe de lentilles au citron. Chez moi, on appelle ça hadas pahamod. Dans une cocotte, vous faites revenir deux oignons émincés. Vous ajoutez 250 g de lentilles vertes. Là, vous laissez frire une minute. Puis vous ajoutez généreusement 2 litres d'eau, mais 2 bons litres. Hein. Vous laissez cuire 10-12 minutes. Vous ajoutez une pomme de terre découpée ou deux. 100 g de feuilles de blette ou de céleri, oui, je sais, mais quand même, faites-le. Un peu de sel, un peu de poivre, et là, vous laissez cuire encore 15 minutes, voire un peu plus longtemps, c'est pas grave si ça cuit 20-25 minutes de plus. Après, vous pouvez ajouter quelques gousses d'ail écrasées, 5-6, le jus d'un citron entier, un peu de coriandre, et là, vous mixez tout. Une fois que c'est prêt, vous faites griller une ou deux tranches de pain libanais, vous cassez en petits morceaux, et vous saupoudrez ça sur la soupe, et normalement, c'est franchement pas mal. Voilà. Bon appétit, merci et à la semaine prochaine.